des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 17 juillet 2021. Germain, bonjour.
Bonjour Antoine.
Aujourd'hui, c'est le fun, on va recevoir le PDG de Volkswagen Canada qui va venir nous parler du futur de la marque, en fait.
Un moment assez crucial, là,
ouais,
Volkswagen,
vraiment.
Parce qu'on élimine certains produits comme la Golf, on arrive avec une deuxième génération de véhicules électriques, un nouveau VUS, il se passe beaucoup de choses.
Oh oui, il se brasse bien des affaires chez Volkswagen, alors on va apprendre ça en deuxième partie d'émission. Première nouvelle pour commencer, qui est une nouvelle que j'ai trouvée à la fois surprenante, mais en même temps compréhensible, celle de l'abandon du 6-cylindres Power Stroke diesel dans le F-150.
Oui, effectivement. Donc, Ford a confirmé, là, le petit moteur diesel va disparaître pour le F-150. Un moteur qui n'aura pas été sur notre marché si longtemps que ça. Hein. Si ma mémoire est bonne, 2018, on était arrivé avec cette mécanique-là.
Avant les autres,
mais
en fait.
Oui, il y a eu une interruption chez RAM avec l'éco-diesel qui avait connu certaines ratées et qui en connaît toujours d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire. Et c'était une mécanique assez efficace si on remorquait, par exemple, si on faisait beaucoup de kilométrage.
Moi, c'est un moteur
mais c'était
que j'ai...
assez cher.
Ben c'était cher, oui, mais c'était facile de rentabiliser ça si on faisait beaucoup de kilométrage. Cela dit, c'est un moteur qui, bon, Ford ne l'aura pas annoncé de cette façon-là, c'est un moteur, de ce que j'avais pu constater, qui consommait beaucoup plus de liquide d'urée que le 6-cylindres Duramax chez GM, par exemple. Et ce que ça veut dire pour moi, c'est que c'est un moteur qui avait beaucoup plus de difficultés à rencontrer les normes, et c'est probablement pour ça qu'on le retire du marché. Ce qui m'intrigue, par contre, c'est qu'on sait que ce moteur-là, c'est aussi un moteur qu'on va retrouver dans plusieurs produits Land Rover qui ne semblent pas l'abandonner de leur côté. Alors, quelle est la stratégie?
Peut-être sont-ils pas ajustés de la même manière? Ou
tu sais, il y a bien des, ben des questions en suspens là-dedans. Est-ce que la stratégie de Ford est appelée à changer pour davantage d'hybridation, d'électrification?
Pour moi, c'est tout à fait clair. Là, on a fait un premier saut avec l'hybride. Bon, c'est pas encore là parfait sur toute la ligne. On va arriver avec une version...
Je te confirme, par contre, que je choisirais le Power Stroke avant le Power Boost pour le moment, parce que le Power Boost, c'est le Power Garage, présentement.
Oui, c'est ça. C'est plus de Power pantoute.
C'est ça.
Fait que, donc, là, on mise beaucoup sur l'hybride, et surtout, on mise énormément sur l'électrique.
Le Lightning.
Donc, ça tombait sous le sens qu'on élimine cette mécanique-là de diesel. Reste à voir si les deux autres constructeurs américains vont conserver, eux autres, cette stratégie-là.
J'en suis pas persuadé parce que, tu vois, du côté de chez GM, le pourcentage de vente du moteur Duramax 6 cylindres est quand même assez élevé. C'est un moteur qui connaît beaucoup de succès, surtout depuis qu'on a abandonné le V6 4.3. Mm-hmm. On vendait déjà pas en grande quantité, mais chez GM,
c'est une alternative intéressante aux deux 8 cylindres, là.
Ben, c'est
puis
ça.
Le 4 cylindres, on en parle même.
Ben, c'est 3-4% des ventes, tu sais, bon, puis encore. Alors, c'est pas un moteur qui est très, très, très populaire. Alors que chez Ford, on a un plateau de mécanique qui est pas mal plus varié. On a 4 versions du V6, un moteur V8, plus
le V8 demeure, hein?
Le V8 demeure, c'est ça. Le V8 perd en popularité chaque année chez Ford. Alors, c'est un moteur qui semble avoir un peu de misère à évoluer. Remarque que chez GM et chez Ram, c'est la même chose. Les V8 sont là, mais n'évoluent pas vraiment. Alors, c'est intéressant de voir la stratégie que Ford prend avec ça, mais un moteur diesel qui était quand même intéressant en ce qui me concerne et qu'on abandonne. Hyundai, de son côté, dévoile l'Elantra.
Oui, l'Elantra, hein, donc l'Elantra N, version sportive de la compacte, de la berline compacte de chez Hyundai.
Compacte, faut le dire vite, là, c'est aussi gros qu'une Sonata.
C'est quand même une compacte. Ouais. Elle n'a de compacte que le segment, le nom du segment, finalement. Ouais. Donc, c'est quand même un 4 cylindres, 2 litres turbo. On est à 276 chevaux. C'est assez impressionnant, là, comme... Tout ça pour l'essieu avant, hein, on se le rappelle. Donc,
et il n'y a pas de berline dans ce segment-là avec une telle puissance. Là.
Non.
Personne d'autre. Une GLI chez Volkswagen est à 228 chevaux. On n'est vraiment pas là, là.
Avec les WRX, WRX STI, ouais, on est là, okay. Mais on est avec quatre roues motrices. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Là. Mais
puis encore, une WRX, c'est 265 chevaux.
Oui. Ben, alors, reste à voir la nouvelle génération. Qu'est-ce qu'on
va arriver en 2076.
Oui, j'espère avant ça, là, cela dit. Mais c'est ça. C'est intéressant de voir que on conserve hein, des sportives et on développe des sportives. Le marché automobile évolue énormément, mais visiblement, il semble y avoir une volonté de produire des véhicules à vocation sportive. Et chez Hyundai, on est dans cette direction-là. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir les photos. L'Elantra, déjà, a un look très...
La chance?
La chance. Je ne sais pas si on peut appeler ça une chance. Mais bref, si tu as pu voir les photos,
oui.
Déjà, l'Elantra avait un look qu'on pourrait qualifier de particulier. Là, c'est absolument violent, avec un gros aileron à l'arrière. Pas aussi gigantesque que celui de la Honda Civic Type R, par exemple, ou justement des STI, mais ça demeure assez violent comme approche. Stylistique, disons ça comme ça.
Disons que si, lorsqu'on est débarqué en 1992 avec la première Elantra, si tu m'avais dit que 30 ans plus tard, l'Elantra aurait l'air de ça, j'aurais eu de la misère à te croire. Ça, c'est certain.
Et pourtant.
Alors que du côté de la GTI chez Volkswagen, ben on est dans l'évolution. Et là, cette semaine, on a dévoilé les prix et la stratégie de mise en marché de la GTI, de la Golf R. Et ça semble très alléchant.
Oui, et de mon côté, ben, j'avais très peur que la GTI soit beaucoup plus chère qu'auparavant, mais c'est pas du tout ça qui s'est produit, parce que, on nous l'avait mentionné, pourquoi la Volkswagen Golf n'allait pas être vendue ici, c'était pour une question de rentabilité, une question de technologie à bord qui ferait qu'elle serait vendue trop cher. Donc, instinctivement demandé si le prix aussi de la GTI allait être majoré, mais absolument pas. Donc, on va pouvoir avoir une GTI 2022 à partir de 31 500 $. On rajoute un léger supplément pour la boîte automatique à double embrayage. La boîte manuelle, elle, va demeurer. Des sièges à motif carotté vont demeurer. Donc, vraiment, on reste dans une approche très intéressante. C'est certain, il va y avoir une version Autobahn qui, elle, va être autour de 35 000 $
Tu vas pouvoir grimper à 40, là, mais je veux dire...
Oui. Mais ça demeure, entre guillemets, accessible dans une version d'entrée de gamme. Là. Donc, ça, c'est franchement intéressant. Même chose pour la Golf R. Hein, on a dévoilé l'échelle de prix. Toute petite échelle de prix parce qu'il n'y existe finalement qu'une seule version puis pour laquelle on choisit la transmission. Donc, encore là, la boîte manuel ou l'automatique à double embrayage.
À la différence que pour cette génération, on pourra choisir en option un toit ouvrant.
Oui, ce sera la seule option.
Ça sera la seule option, mais ça n'avait jamais été offert sur l'ancienne génération. Pourquoi? Parce que l'ancienne génération de la Golf R, pour une raison qui m'échappe encore, pour son homologation, c'était basé sur la e-Golf. On avait pris les bases de la e-Golf pour homologuer également la Golf R. Comme la e-Golf n'avait pas de toit ouvrant, on n'a jamais pu homologuer une Golf R d'ancienne génération avec le toit ouvrant, aussi bête que ça. Mais là, avec la nouvelle génération, on l'offre.
Ça sert à rien, toit ouvrant.
C'est ça.
Ça coule, puis ça craque, c'est tout. Moi, j'en veux pas.
Puis ça fait briller la calvitie.
Ah, voilà. C'est ça.
mais Donc, la Golf R va être offerte. Bon, c'est 45 000 les dépoussières.
Oui, exactement.
Là.
44 995. Là, c'est 45 moins 5 poussières.
On est pas mal là. Et évidemment, il y a beaucoup plus de matière qu'avant.
Oui.
Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Volkswagen étudie aussi la possibilité d'amener une Golf R qui serait un peu plus déshabillée, à l'intérieur de laquelle on n'aurait pas de sellerie de cuir, on aurait plutôt du tissu qui pourrait nous ramener peut-être au niveau de la GTI. Donc est-ce qu'on
sous la barre des 40 000?
J'ai pas l'impression que le prix serait énormément moindre. L'idée, c'est peut-être d'aller chercher une clientèle différente. Parce que moi, par exemple, ma voiture idéale, c'est une GTI avec la mécanique d'une R. Je préfère de beaucoup le look de la GTI, l'image de la GTI que celle de la Golf R, avec un intérieur tout noir, en cuir noir, tu sais, qui manque de contraste, alors que les sièges carottés de la GTI, l'image, les petites bandes rouges, il y a quelque chose qui me parle là-dedans.
En fait, ce que ça te prendrait, c'est une GTI à quatre roues motrices.
Bon, alors...
On le regarde d'un côté ou de l'autre.
C'est certain qu'on va capitaliser sur ces modèles-là et qu'on va en faire une gamme beaucoup plus étoffée au cours des prochaines années. On a même étudié la possibilité d'amener la Golf R familiale.
Je suis pas sûr qu'on l'a étudié très longtemps.
On l'a étudié, mais ça a été trop compliqué. C'est vraiment quelque chose qu'on a considéré et qu'on a choisi finalement de laisser tomber.